Merci à tous, à la semaine prochaine. Et ça, vous voyez, c'est la magie RTL. Puisqu'avec le 3210, vous votez pour la musique et les artistes que vous aimez. C'est ce que vous avez fait tout au long de la matinée. Et maintenant, le top du top, vous avez Philippe Bouvard en ligne. Philippe, allô, Bouvard ?
Allô, Vincent ? Eh bien, écoutez, oui, je les attends de micro ferme. Et merci de me le repasser, ce micro.
Eh bien, je raccroche. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Juste avant le déjeuner dominical, votre rendez-vous sur RTL avec Philippe Bouvard pour Allô Bouvard. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous et bienvenue spécialement à ceux qui vont nous poser des questions.
Et un premier appel, Philippe avec nous, Laurent, 49 ans, en recherche d'emploi. C'est un ancien routier et il habite Boulogne-sur-Mer.
Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Alors, votre question.
Alors ma question, ça concernait l'Europe, dès qu'elle est faite, comment elle est faite maintenant, quoi, et savoir vous ce que vous en pensiez.
Bon, alors faut que je vous fasse un aveu, mais qui est un aveu générationnel et personnel. Bon, au départ, j'étais pas très enthousiaste parce que ma famille et moi avons eu à nous plaindre beaucoup pendant l'occupation des Allemands et que j'étais très disposé à les retrouver si rapidement à côté de nous. Et puis bon, ça faisait vieux con. Et puis bon, on m'a représenté, c'était pas faux que les Allemands d'aujourd'hui n'étaient pas ceux d'hier, même s'ils avaient un lien de parenté. Bon, bref, j'ai admis que l'Europe était une chose importante et que l'Europe pouvait s'opposer, mais très, très loyalement aux États-Unis, notamment sur le plan du commerce et de l'industrie. Aujourd'hui, quand même, Laurent, vous savez, il y a 28 États et 508 millions de citoyens. C'est pas rien, hein ?
Ouais, ouais.
Comment vous le ressentez, vous, la fiction ? Non, c'est pas vrai. Comment vous ressentez l'Europe ?
Ben moi, à mon niveau, je la ressens. Au début, je la ressentais bien parce que moi, j'étais chauffeur routier international. Alors, il y a eu un côté pratique, c'est la suppression des douanes, donc un gain de temps pour passer les frontières. La monnaie européenne, ça permettait. Moi, je faisais de l'Angleterre, d'Italie, d'Espagne. Alors, à chaque fois, il fallait avoir plusieurs monnaies différentes.
Oui.
Donc, au départ, moi, je sentais ça. J'étais vraiment enthousiaste.
Et à l'arrivée ?
Et à l'arrivée, ben là, grâce à l'Europe, le 26 septembre, j'ai perdu mon travail.
Ah, alors expliquez.
Bah en fait, comme je suis chauffeur routier, je travaille pour une grande entreprise, ces grosses entreprises comme ça, bah, mon patron par exemple a acheté une entreprise en Roumanie, et donc je fais travailler des Roumains, chauffeurs routiers roumains en France, ce qui fait que on m'a dit, bah voilà, les chauffeurs français ça coûte trop cher, maintenant on a les Roumains, et donc le 26 septembre, j'ai dû faire une rupture conventionnelle, hein, qui est un licenciement déguisé, puisque bah, on vous propose d'abord des places qui sont... Bah moi, j'habite Boulogne-sur-Mer, je travaille pour une agence de Chambéry. Bah on vous propose des places ils savent très bien que vous allez devoir refuser pour en finir, aboutir sur une rupture conventionnelle.
Alors vous savez que la Roumanie fait partie des derniers pays qui ont été admis dans le cercle européen. Alors bon, c'est quand même une énorme machine qui fonctionne d'ailleurs de façon parfois surprenante, puisque l'Europe est gouvernée aujourd'hui par un Parlement qui siège 3 semaines à Bruxelles et la 4e à Strasbourg, ce qui n'est pas un modèle d'économie et d'organisation. À la tête de l'Europe, il y a une Commission européenne qui est le véritable gouvernement de l'Europe et qui est présidé aujourd'hui par M. Juncker, qui est un ancien Premier ministre luxembourgeois, qui a d'ailleurs beaucoup de classe et d'expérience. Et dans cette Commission européenne, on trouve aujourd'hui chargé des finances, M. Moscovici, qui avait si bien réussi dans le même domaine à Bercy. Aujourd'hui, vous savez combien nous coûte, parce qu'il y a des cotisations, hein, comme dans toutes les associations, combien coûte aux contribuables français l'adhésion à l'Europe ?
Non.
20 milliards d'euros par an. Alors bon, vous me direz, vous aurez raison, qu'on récupère 12 milliards d'aides, notamment à l'agriculture. Mais enfin, ça fait quand même cher. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires européens, hein. Il y en a plus de 50 000 à payer. L'Europe, quand même, elle a eu une longue histoire. Au départ, il y avait 6 pays, dont la France quand même, qui est membre fondateur. Les Anglais ne sont venus que beaucoup plus tard et ils ont été... D'abord, ils n'étaient pas très enthousiastes pour adhérer. Et ensuite, quand ils l'ont voulu, il y a eu des vétos, et notamment des vétos des Français. on a fini par leur ouvrir la porte. Aujourd'hui, on est dans cette situation paradoxale qu'ils n'ont jamais adhéré à l'euro, alors qu'en principe, ils se trouvent dans sa zone, et qu'ils n'attendent qu'une occasion pour quitter l'Europe. Donc, ce n'est pas une grande réussite, mais bon, il paraît qu'il faut en accuser ce qu'on appelle le complexe d'insularité. Naturellement, l'Europe met son nez dans toutes nos affaires, vous le savez, ça ?
Oui, oui, on voit bien que il y a beaucoup de décisions qui sont prises à Bruxelles, et puis même en ce qui concerne, comme là on entend, ils veulent remodifier un peu le code du travail,
parce que ouais, le code du travail français.
Ouais. Alors moi je me dis déjà comme moi mon patron, il y a aucune difficulté pour se séparer de ses employés sans qu'il y ait une modification du code du travail, mais le jour où ça arrive, il va se frotter les mains, parce que ça va être encore... Moi, par exemple, pour me faire partir, j'ai pris un certain nombre de temps, parce que le temps qu'on fasse des propositions malhonnêtes, on va dire, des places que j'ai pu refuser, ensuite, le temps qu'on négocie au niveau de la rupture conventionnelle, il y a toujours une somme d'argent qui est négociée, ça a pris un certain temps. Tandis qu'avec une modification du contrat de travail, du code du travail, pour lui, ça va devenir beaucoup plus simple.
C'est pas rassurant. Mais alors, l'Europe se mêle aussi de notre vie quotidienne et pas dans ce qu'il paraît le plus important. Par exemple, elle a limité à 6 litres le contenu de nos chasses d'eau. Vous le saviez pas, ça ? Bon, ouais. elle a limité la longueur de la banane à 14 cm, alors que le concombre, bon, qui est aussi méritant mais moins savoureux, avait droit à 18 cm. Vous savez, c'est quand même étonnant et un peu inquiétant. Aujourd'hui, il y a... attendez, j'allais oublier le principal. L'Europe a dit pas plus de 50% de sucre dans les confitures. Bon, il fallait quand même se pencher sur le programme, hein ?
C'est des trucs très importants qui changent la vie des ouvriers de toute l'Europe. Les ouvriers perdent leurs emplois parce que l'Europe... Mais on parle de trucs vraiment futiles, quoi, la longueur des concombres, la longueur des bananes, monsieur. Alors, il y a des gens qui perdent leur emploi, quoi. C'est ça qui, moi, ça me rend fou, ça m'énerve.
Aujourd'hui, vous vous estimez, à juste raison, lésé dans votre vie professionnelle, mais il y a tous ceux auxquels l'Europe profite, hein. Alors, ce sont les députés européens, dont on dit d'ailleurs que certains manquent un peu d'assiduité. Et ce sont parmi les plus connus chez nous, mais ceci explique sans doute cela. De temps en temps, il y a un pépin. Par exemple, les banques cypriotes. On a ouvert la porte à Chypre. Alors bon, Chypre est un État modeste, hein. Bon, 250 000 habitants, c'est pas énorme. Sauf qu'il a quand même fallu que l'Europe paye 20 milliards d'euros pour sauver les banques de ce pays. Alors bon, ça a été plus ou moins bien vu. Au fil des années, on a admis des pays. Parfois d'ailleurs, des pays dont on n'attendait pas la candidature. Mais pourquoi pas, hein ? On est passé de 6 à 9, puis de 9 à 12, puis de 12 à 15, puis de 15 à 28 aujourd'hui. Est-ce que vous sentez, vous qui avez voyagé de par votre profession, est-ce que vous avez senti une solidarité européenne ? Est-ce que vous avez été mieux accueilli par les gens habitant les pays qui venaient d'adhérer à l'Europe ?
Moi, j'ai rien senti de mieux accueilli. J'ai senti une certaine solidarité, par exemple, si je prenais le bateau pour l'Angleterre, ça m'est arrivé à discuter avec des Anglais. Et là, il y avait une certaine solidarité entre les chauffeurs anglais, qu'ils ont la même pensée que nous, tous les chauffeurs, alors les Anglais et les Allemands. C'est, on en a marre des chauffeurs low cost qui viennent prendre notre travail. Maintenant, aussi bien en France qu'en Angleterre, quand vous voyez plus des camions, lituaniens, roumains, bulgares. Alors là, nous, ce qui nous fait peur maintenant, c'est que l'Ukraine cherche à rentrer dans l'Europe. Alors on se dit, mais les Ukrainiens, ils sont encore moins payés que les Roumains. Alors là, on n'en va jamais s'en sortir, nous, les... En fait, c'est l'Europe des riches, nous, les pauvres ouvriers, on s'en sort pas.
Oui, oui. Vous noterez que entre 81 et 86, on a accueilli la Grèce, l'Espagne et le Portugal, qui ont été par la suite, et encore récemment, des pays qui étaient en grande difficulté. Et qu'il y a un pays en Europe où l'on ne parle pas de crise, où le mot n'est même pas pratiqué, il n'appartient pas au vocabulaire des citoyens, c'est la Suisse. et que la Suisse adhère à l'espace Schengen, mais ne fait pas partie de l'Europe. Bon, je suppose que c'est une coïncidence, mais quand même, il faut réfléchir un petit peu. Qu'est-ce que vous pensez alors de cet accord de Schengen qui risque, et c'est un des vœux notamment de Nicolas Sarkozy, d'être remis en cause, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, qui a fait de l'Europe sans frontières une véritable passoire?
Alors, si la remise en cause de l'espace Schengen, ça peut permettre de dire, ben voilà, on s'est trompé, il n'y a plus la libre circulation des travailleurs. Là, on a actuellement, que tout le monde va travailler où on veut, mais on voit surtout que c'est les gens des pays de l'Est qui viennent travailler chez nous. Ben moi aussi, je suis pour la remise en cause de ce traité. On doit remettre tout à plat et recommencer. Il y a un truc qui ne va pas, là. C'est pas possible. Alors en France, il y a plus. Alors moi, je parle du milieu du transport parce que moi, je vois ça. Mais c'est moi, j'entends ça aussi dans le bâtiment. Il y a des entreprises intérimaires qui envoient des Polonais ou des Roumains faire des chantiers en France.
Oui. Le chauffeur roumain est pour vous ce que le plombier polonais était pour d'autres, hein?
Voilà, on s'est foutu de nous avec le plombier polonais pendant il y a quelques années en arrière, mais c'est exactement ce qu'on ressent parce que voilà.
Vous n'êtes pas senti soutenu par le fait que la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, Malte nous avaient rejoints et que la Turquie aimerait bien le faire. Alors, sur la Turquie, hein, on n'est pas d'accord parce que ce sont des gens qui sont très différents de nous et qui surtout n'assignent pas au sexe prétendu faible la place dont ils disposent dans notre société, hein. Il y a eu aussi la Croatie, mais la Croatie qui est devenue une grande région touristique. Hein. Il y a des candidatures, hein. Il y a l'Albanie, il y a l'Islande, il y a la Macédonie, il y a le Monténégro. Le Monténégro et la Serbie. Bon, pourquoi pas, hein. Moi, je voudrais quand même terminer sur le fait que le statut de fonctionnaire international est très, très gratifiant. Parce que, alors fonctionnaires et parlementaires, ils sont non seulement bien payés, ils ont un tas d'indemnités, ils ont des indemnités d'installation, parce que généralement ils viennent d'autres pays que de celui qui les accueille. Ils ont des indemnités de résidence, ils ont des indemnités de représentation, ils ont des indemnités de voyage, ils ont une retraite qui est 70% égale au montant de leur dernier salaire. Et surtout, alors tenez-vous bien, hein, Laurent, ils ne payent pas d'impôts. C'est formidable, non? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être que nous ne le disons pas assez. Ils disent merci, l'Europe.
Ben voilà.
Merci, Laurent. Au revoir.
Au revoir.
Allô, Bouvard sur RTL. Allô, Bouvard sur RTL.
Comme d'habitude, des petites nouvelles. Pour ouvrir son troisième forum de l'économie positive, Jacques Attali a demandé aux participants de se tenir par la main, sans risquer d'ailleurs pour autant de diminuer la productivité, puisque tous les doigts appartenaient ce jour-là à des intellectuels. Le pape François a dénoncé comme une euthanasie cachée l'abandon des personnes âgées dans les maisons de retraite. Un beau souci qui rompt opportunément avec l'intérêt traditionnel prêté au clergé pour les enfants.
Osez poser toutes les questions à Philippe Bouvard jusqu'à 12h30 sur RTL. Philippe, nous accueillons Nicolas, 38 ans, juriste à Paris.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, notre cher et beau pays, ayant déjà compté à sa tête un roi soleil, des rois fainéants, un autre guillotiné, a changé l'appellation par celle de président de la République depuis 1871. Mais souvent, et même parfois, il semble que ces derniers se comportent en monarque. Oh. Alors, êtes-vous favorable à l'idée de réinstaller un roi en France?
Vous êtes royaliste, vous?
Pas trop.
Pas trop. Et moi, pas du tout. Bon. Mais ça ne nous empêche pas d'abord de reconnaître que très au-delà des trois que vous avez cités, il y a 43 qui ont fait la France. C'est pas rien. Ensuite, que c'est un régime qui offre de nombreux avantages sur la République. Alors, je vais vous les énumérer, sans pour autant d'ailleurs dire qu'il faut adhérer à ce système de gouvernement. D'abord, un roi est forcément de bonne famille. On me dirait que c'est pas très démocratique. Oui, ça l'est moins. et une famille qui souvent est connue depuis très longtemps, mais enfin, on sait qui il est. Comme il était, dès sa naissance, désigné pour régner, on l'a, dès son plus jeune âge, éduqué pour régner. Donc, il est prêt. C'est-à-dire que, bon, il passe pas directement du département de la Corrèze à la France. Non, il passe du trône de ses ancêtres au trône qu'il va occuper. Ensuite, il est généralement bien habillé, il porte à merveille l'uniforme, même s'il a très peu servi dans l'armée. Il épouse une jeune femme de bonne famille, qui parfois est jolie, qui lui fera de beaux enfants, bien peignés, qui ressortiront du collège avec des blazers à blason, en plus du blason de la famille, bien sûr. Vous me direz, bon, il y a quand même un risque, c'est que, par suite de la consanguinité qui sévit dans les mariages aristocratiques et surtout royaux, il soit un petit peu taré. Ah ben oui, ben là, ça, il faut l'accepter, hein. C'est le risque. Qu'est-ce que nous avons en France comme risque ou comme avantage à espérer d'un rétablissement de la monarchie? Vous savez qu'il y a plusieurs prétendants, hein.
Oui, il y a des familles qui attendent un petit peu.
Ah oui, ah oui. Elles attendent depuis longtemps. Et souvent, d'ailleurs, elles savent qu'elles attendront plus longtemps que la durée d'ancienneté terrestre dont elles bénéficieront. Vous savez qu'il y a eu la loi d'exil qui, longtemps, je crois juste en 1960, a interdit aux prétendants au trône, c'est-à-dire aux descendants des familles royales et impériales, et à leurs fils aînés, de résider en France. C'est pour ça que le défunt comte de Paris s'était installé au Portugal. Et puis il est revenu, il a acheté un manoir à Louveciennes, où il a installé sa petite famille, et puis il fait partie aujourd'hui du folklore. Enfin, son fils, hein, son fils Henri, qui a aujourd'hui 81 ans, on fait le tri. Il y a les descendants de Napoléon, mais ça c'est pas en ligne directe, hein.
Non, oui.
Bon, il y a un prince Napoléon, bon, qui avait désigné d'ailleurs non pas son fils mais son petit-fils comme prétendant au trône. Bon, mais ça très souvent d'ailleurs, les successions royales sont comme certaines vilaines maladies, elles sautent une génération. Ce sont des gens qui n'ont plus de fortune personnelle parce que bon, le temps a passé. Les monarques dont ils descendent étaient extrêmement riches. Et puis, il a fallu vivre pendant près de 2 siècles, parfois plus. Le comte de Paris, le défunt comte de Paris, qui était encore très riche, une des principales fortunes de France, a laissé ses enfants quasiment dans la misère, et ils s'en sont jamais remis, parce qu'il y avait eu, il y avait les impôts, et puis il y avait surtout la rapacité d'une gouvernante qu'il avait, ainsi que sa famille, comblée de bienfaits. L'avantage quand même, c'est la succession. Ah, la succession, elle est affectueuse. La passation des pouvoirs, notamment lorsqu'un roi abdique, ça, quelle leçon de courtoisie pour nos dirigeants. Le roi qui s'en va, étreint, presse sur sa poitrine le roi qui arrive. Bon, ensuite, ils vont faire un petit gueuleton, ils vont au balcon du palais, ils saluent la foule. On n'a pas organisé d'élection pour savoir qui va succéder à qui. C'est le rêve, hein, c'est le rêve. Il y a d'autres familles qui prétendent à la succession, et il y a la famille de France. J'avais invité aux grosses têtes Henri de Clermont, qui est le fils du comte de Paris, et comte de Paris lui-même maintenant, qui était un homme très, très courtois, qui avait été très bien habillé, mais bon, dont les vêtements étaient un peu élimés quand il est venu nous rendre compte, parce que, bon, il avait une petite retraite de militaire, et pour joindre les deux bouts, il donnait des petites conférences où il vendait ses dessins, et donc, c'était une vie difficile, avec de temps en temps quelque chose de plus gratifiant qui était la réunion des derniers partisans de la monarchie, mais qui en France se compte par centaines et plus par dizaines de milliers. Et puis il y a d'autres branches, hein. Il y a la branche qui, elle, descend directement de Louis XIV, oui. Avec des beaux titres, hein, parce que Tous ces jeunes gens, qui d'ailleurs vieillissent, et c'est tant mieux pour eux et pour nous, portaient à leur naissance des titres, hein, duc de Vendôme, duc d'Anjou. Ça fait quand même mieux que nos petits patronymes plébéiens, non ?
Ben, c'est un peu mieux, puis c'est mieux aussi que duc de Tulle, hein, parce que c'est, ça fait pas très très sérieux, ça.
Oui. Est-ce que vous savez que De Gaulle, tout de suite après l'abolition de la loi d'exil, avait reçu à l'Élysée, et il s'en était pas caché, le comte de Paris de l'époque ? On en avait déduit que De Gaulle était partisan du rétablissement de la monarchie. Et on lui avait posé la question. Et il avait esquissé un sourire, et avec sa voix si particulière, il avait dit « Le comte de Paris, et pourquoi pas la reine des Gitans ?» Vous voyez, c'était une façon quand même de démentir. Bon, les prétendants au trône exercent des professions honorables, ils ont fait des études, mais ils vivent plutôt chichement, hein, surtout que bon, ils ont souvent beaucoup d'enfants, aucune subvention. Et si un jour, mais on voit pas comment, la royauté revenait, ben, il y aurait une bataille entre les prétendants, comme il y a aujourd'hui une bataille entre les prétendants à la présidence de la République. Sauf que pour que la royauté revienne, il faudrait modifier la Constitution, dont le premier article spécifie et rappelle que la France est une république. Je sais pas si vous êtes de mon avis, Nicolas, mais il y a vraiment très peu de chances, hein, pour qu'on ait un roi.
Ah oui, ça me paraît peu probable, en tous les cas, parce que, ah si, peut-être, ou un qui s'inspirait de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait fait un coup d'État parce que son mandat de président allait arriver à échéance, et qui s'était auto-investi empereur, mais enfin bon.
Ah, écoutez, c'est vrai qu'il est passé de la présidence à la royauté.
Oui,
hein.
Bah, d'une certaine manière, oui.
Ah oui, oui, oui. Mais enfin, oui, il y a eu un coup d'État. Mais est-ce qu'on est à l'abri d'un coup d'État ? On ne peut pas le certifier.
Un coup d'éclat, non ? Plutôt.
Non, non plus. Hein.
Non,
mais on peut remarquer aussi que s'il n'y a plus de royauté, il y a une cour et il y a des courtisans. Et
ah,
ça
oui.
Se passe à l'Élysée. Hein.
Bah oui. Bon. Mais oui, il y en a même un peu trop, je crois, non ?
Bon.
Il y a une courtisane aussi, je crois, non aussi.
Il y a peut-être une courtisane. Bon, il faut quand même distinguer entre les emplois de jour et les auxiliaires de nuit.
Oui.
Si un jour on devient une royauté, bah, ça donnera peut-être un peu de lustre à la République. On verra, d'abord on verra réapparaître une salle du trône. La salle des fêtes de l'Élysée, avec un trône au fond, sous les rideaux, ça aurait beaucoup de gueule.
Et puis, il faudra remettre des fèves dans les galettes des rois, puisque par tradition, quand il y a les rois à l'Élysée au mois de janvier, on ne met pas de fèves.
Ah, oui. Bon, bref, je vais simplement vous dire, parce que je me suis renseigné, comment le prétendant, qui est le mieux placé par sa descendance directe avec le roi Soleil, sous quel nom il régnerait si la royauté était rétablie. Ce serait Louis
XX. Louis XX.
Oui, parce que d'abord, il se prénomme Louis.
Oui.
Et ensuite, parce qu'il y a eu Louis XVIII et apparemment le Louis XIX, on a fait l'impasse sur son règne, ou peut-être qu'il n'a jamais existé, ou peut-être que Louis XX, ça sonne mieux. Voilà, on a fait le tour. C'est pas pour ça, d'ailleurs, qu'on sera demain en royauté. Mais c'est pas mal d'avoir quand même parmi nos citoyens des gens qui sont d'extraction royale, dont la famille possède des trésors, alors plus des trésors en argent, mais des trésors de souvenirs, des trésors de manuscrits. Moi, ça, qui aime bien l'histoire de France, de savoir qu'il y a auprès de nous des témoins directs de cette histoire, ça me réchauffe le cœur. Merci Nicolas.
À bientôt, Monsieur Bouvard.
À bientôt.
RTL, allô, Bouvard ? Allô, Bouvard, sur RTL.
Petite nouvelle macabre. Une veuve vient d'être blessée par un pot de fleurs piégé qu'on avait déposé en son absence sur la tombe de son défunt. On suspecte les dirigeants d'une caisse de retraite croulant sous les pensions de réversion. Après le décès de plusieurs touristes agressés par des malfrats, les autorités thaïlandaises ont décidé d'offrir aux étrangers un bracelet indiquant leur identité afin de faciliter, à la fin du séjour, le renvoi du corps à la famille.
Jusqu'à 12h30, Allô Bouvard sur RTL.
Bonjour Philippe.
Bonjour mon cher Philippe. Je vais vous donner les prévisions astrologiques de la semaine prochaine concernant M. Gérard Larcher, président du Sénat. Les bonnes fées, Monsieur le Président, se sont penchées très tôt sur votre berceau en vous faisant naître à la flèche d'un père qui s'appelait Larcher et d'une mère née Robin, descendante par la main gauche d'un fils de Jeanne d'Arc. Tout vous prédisposait à devenir un fin tireur, aussi bien aux boules qu'aux fusils, et à acquérir une réputation de franc buveur dans les comices agricoles. Travail, n'en faites pas trop cette semaine. Votre élection au Sénat s'est faite dans un fauteuil. Profitez tranquillement de votre victoire en allant à la chasse, par exemple, sans craindre pour autant de perdre votre place. En amour, soyez prudent quand vous sortirez votre petit bateau à voile sur le bassin du jardin du Luxembourg. Ne mettez pas le costume marin que vous portiez pour votre communion privée, de peur de susciter la convoitise de quelques gourgandines, attirées par le pouvoir comme une mouche par la confiture. Faites attention aux flèches décochées par l'archer de l'amour. Elles sont souvent empoisonnées. Santé, vous ne manquez pas d'estomac, ce qui est appréciable sur votre lieu de travail où, dit-on, la cantine est fort bonne. Cependant, si vous arrosez votre élection, faites-le avec modération. Ce n'est pas une compagne très agréable, mais elle veille sur votre santé physique en même temps que le cyclorameur que votre épouse vous a offert pour Noël et que vous aviez laissé dans la baignoire croyant qu'il s'agissait d'un aviron. Préférez la tripe républicaine à la joue de bœuf que vous caressiez quand vous étiez vétérinaire et contentez-vous de faire la bise à la dauphine du Corso fleuri en vous rappelant cette maxime de Confucius « La voiture du député transporte moins de voyageurs que le train du sénateur ». Bon dimanche, mon cher Philippe, et à la semaine prochaine.
11h30, 12h30, Allô Bouvard, sur RTL.